Pas ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, au travers du premier don spirituel, je me suis dit, c'est ça, Seigneur. Avoir des projets, c'est une bonne chose en soi. Ça n'enlève pas le fait de les soumettre à Dieu. Et on va parler de la prière. Donc, on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Pour commencer la lecture, et puis nous continuerons avec une autre étape de la vie du Seigneur Jésus, où cette fois, il n'a pas enseigné aux autres à prier, mais il a prié lui-même. Et il a prié lui-même pour lui-même. Donc Matthieu, chapitre 6, verset 5, finalement, ça s'inscrit dans ce que nous avons commencé de méditer depuis un certain temps. Nous sommes en devenir, jusque dans l'éternité donc. Nous sommes en construction, les choses progressent. Et vendredi soir, on en parlait dans le cadre de l'étude biblique. Finalement, Dieu, avec des choses simples, est capable de faire des choses fortes. Et on parlait de l'hippopotame et après du rhinocéros, parce que ce sont quand même deux beaux bestiaux, on pourrait dire ça comme cela. Apparemment, il n'aurait pas de prédateurs naturels, si ce n'est l'homme avec des artifices pour arriver à les endormir ou autre. Mais il ne mange que de l'herbe. Et vous avez vu que manger quelques brins d'herbe, pour eux, c'est quand même quelques brins d'herbe multipliés par un grand nombre, ce que ça peut donner. Donc nous, on n'est pas encore conscients de ce que le fait, simple fait de méditer la parole de Dieu peut donner en termes de puissance et de force dans nos vies. Pensez aux brins d'herbe. Et ensuite, vous pensez aux grains de blé. Et le grain de blé étant la parole de Dieu qui nous a été donnée, étant la vie que le Seigneur a donnée à la croix, nous sommes émerveillés de la capacité de puissance et de vie que Dieu a donnée au travers d'un simple grain de blé qui est tombé en terre et qui a porté sa semence. Nourrissons-nous comme il convient et nous serons forts. Je termine avec ce point par rapport à vendredi. Même les plus puissants des athlètes, et nous avons un champion du monde au niveau du judo, et même avant il y en avait un autre quand même, ils ont tous commencé au lait. Comme quoi avec du lait on peut aller loin. Hein, voilà. Donc la parole de Dieu étant aussi du lait, nourrissons-nous, ne méprisons pas les choses que Dieu nous donne. Donc Matthieu chapitre 6, verset 5, prenons un peu d'herbe. Chacun aura de l'herbe dans son champ, dit le prophète Zacharie. Prenons un peu de lait, le lait spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seconde lecture, un autre moment, même une toute autre étape de la vie du Seigneur Jésus, où là, une décision des plus dures qui soit, si ce n'est la plus dure qui soit, doit être prise. Il doit accepter d'aller jusqu'à la croix. Je ne pense pas que sur la terre, nous ayons un jour, nous, à prendre une décision d'une telle ampleur, parce qu'on n'a pas quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes. On est dans d'autres difficultés, ce n'est pas pour les minimiser, mais d'une telle ampleur, ça n'a jamais existé. Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. La prière est de la plus haute importance. Quand vous priez, dites que ton règne, que ton nom, pardon, soit sanctifié. Et le positionnement dans la prière au départ de ma vie et tout au long de ma vie doit être frappé de sainteté. Je ne peux pas me permettre de continuer de prier si je ne suis pas sanctifié. Je peux m'approcher de Dieu comme des personnes en grand nombre, des foules entières se sont approchées de lui et ont été bénies, mais elles ne sont pas pour autant rentrées dans la vie de prière. Là, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'une vie de prière qui doit être la constante de notre parcours et qui va me permettre, le moment venu, d'avoir la force nécessaire pour prendre les décisions qu'il faut, affronter les situations qui se présentent. Et Jésus aura besoin de prier pour affronter la croix. Et il va y revenir. Il aura même besoin d'être encouragé par un ange, puisque tout le monde s'endort, pour être fortifié et pouvoir affronter la croix. Donc, c'est important ce moment de la prière et le point de départ, que ton nom soit sanctifié. On n'en est plus à l'époque de l'Ancien Testament où quand on s'approchait de Dieu, il fallait se laver, il fallait se purifier, c'était symbolique. Néanmoins, le symbole avait une signification, c'est qu'on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Et nous, avec l'habitude, nous pourrions commettre de temps en temps une petite erreur à notre désavantage, c'est de nous approcher de Dieu un peu trop facilement, un peu trop comme ça, que ton nom soit sanctifié. Quand vous priez, dites-le, que ton nom soit sanctifié. Et vous allez voir qu'il y a un effet, il y a un écho. Mais moi, il faut que je sois saint pour m'approcher de toi, qui est saint. Que ton règne vienne. Et ça, c'est une déclaration de ma part. Ce n'est pas simplement un sujet de requête. C'est une affirmation. Je veux que ton règne vienne. Il y en a d'autres dans le monde qui ne le veulent pas. Et voilà l'état du monde, donc l'état de leur vie. Mais moi, dans ma vie, dans mes situations, je veux que ton règne vienne. Autrement dit, je veux que tu aies la première place. Sinon, il ne règne pas. Sinon, il est juste là. Il est à côté de nous. Il est celui qui nous entoure par devant et par derrière. Il y a des textes de la parole de Dieu qui font bien ressentir que le Seigneur est avec nous, est à côté de nous. Mais ça, ce n'est qu'une étape qui doit nous amener à la finalité. Que ton règne vienne, je veux que tu aies la première place. Parce que si nous posons la question au Seigneur, et ce matin encore, quelqu'un dans la prière l'a dit, si nous posons la question au Seigneur, mais quelle place m'as-tu donnée ? C'est avec Christ assis dans les lieux célestes, cohéritier. Il n'y a pas de second rang dans le ciel. Nous sommes tous au premier rang. Voilà. Que ta volonté soit faite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important que je dois saisir et qui doit m'amener à soumettre la mienne à la sienne. Et on n'est pas encore allé dans les sujets qui me concernent à titre personnel. On est en train de poser les bases qui sont le socle de la vie chrétienne et de la prière. Voilà. Dans ma vie personnelle, je veux que tu règnes. Je veux que ta volonté soit faite. Dans ma vie de famille, je veux que tu règnes. Donc, je place tous les autres déjà sous le risque de la conversion et de la bénédiction. Vous et moi, nous sommes dangereux désormais, partout où nous sommes, parce qu'il y a potentiellement la bénédiction de Dieu qui va passer. Ce n'est pas évident, hein, dans un monde qui nous met tous à mal. Néanmoins, si elle ne passe pas par nous, elle passera par personne. Parce que c'est au travers de nous que Dieu veut faire son œuvre. Nous sommes des porteurs d'espérance jusque dans l'éternité. Tout simplement parce que nous donnons à Dieu la place qui lui revient. je veux que tu règnes, que ta volonté soit faite dans l'Église. Quelqu'un dira, mais c'est quand même le béaba. Ben oui, mais parfois on a oublié le béaba aussi. C'est toi qui as la première place. Ici, nous ne sommes que des serviteurs, les uns et les autres. C'est toi le maître. Et c'est toi qui sauves. Nous ne choisissons ni vous ni moi, nos frères et sœurs, déjà dans la vie, notre propre vie, notre propre famille, mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose, c'est le Père qui choisit. C'est le Seigneur qui choisit, c'est lui qui amène dans sa maison et qui attire à lui. Et il nous dit, regardez les champs qui blanchissent. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est un sujet de prière. Nous devons continuer de prier pour notre pays, pour ceux qui le dirigent et ceux qui le dirigeront. Je ne vois pas trop la parenthèse, mais rien n'est sûr, rien n'est clair. C'est pas où on va. Alors, il faut prier. Et le Seigneur le dit. Et puis maintenant, on rentre dans une dimension qui nous concerne. Et elle doit toujours arriver en second rang, la dimension qui nous concerne. Parce que chaque fois que nous avons fait l'inverse, on a eu du mal à placer Dieu là où il devait être placé. Plaçons-le d'abord là où il doit l'être, et ensuite tout reprendra son ordre dans notre vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Est-ce que c'est plus facile de donner ou recevoir ? On le sait tous, hein ? C'est beaucoup plus facile de recevoir. Par contre, quel est le plus important ? Donner ou recevoir ? C'est de donner. Alors je m'adresse à Dieu, il est capable de donner et je vais recevoir. Et en retour, il me demande de lui donner pour qu'il reçoive. Et la première des choses qu'il me demande, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà. » Et dans notre vie, le fait de dire « Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » va poser des bases spirituelles de A jusqu'à Z. Parce que le pain quotidien, on va dire que c'est le A. C'est la base de la vie. Si nous ne mangeons pas chaque jour, eh bien notre vie peut être en danger. Et à partir de là, tout va être équilibré dans notre vie si nous mangeons bien. Et nous recevons tout ce que Dieu nous donne. Ou plutôt, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de sa part. Tout. Alors, on va prendre un instant. Est-ce que vous êtes capable de dire que tout ce que vous avez, vous l'avez reçu de Dieu ? La vie que vous avez vient d'où et de qui ? Le salut que vous avez vient d'où et de qui ? Le travail que vous avez vient d'où et de qui ? La famille que vous avez vient d'où et de qui ? Qui veille sur nous chaque jour ? Et le Seigneur a posé une base également dans le « donne-nous ». Le « donne-nous » ne peut pas être un « donne-nous » et « je garde tout ». Ça appelle en retour. Il a posé une base que l'on retrouve déjà dans le livre de la Genèse. Lorsque Abraham est béni par Melchisédek, il lui donne la dîme de tout. Quand est-ce qu'on peut donner à Dieu une partie de notre santé, de notre activité, de notre temps, de nos biens ? Quand d'abord on a acquis, on a compris que tout ce que l'on a vient de lui. Lui nous donne 100% et il nous demande un retour à hauteur de 10. C'est quand même extraordinaire de vivre les choses avec le Seigneur de cette manière-là. Pardonne-nous, comme nous aussi, nous pardonnons. Et là, on arrive dans une situation qui fait qu'on est devant Dieu. Et il voit, et encore un don spirituel l'a dit ce matin, il voit ce qu'il y a dans notre vie que personne ne voit. Et de toute façon, il ne le dira à personne. Seulement, Dieu voit tout. Et il sait tout. Donc, chaque fois qu'on s'approche de lui, nous sommes devant celui qui voit tout et qui sait tout. Et il ne peut pas en être autrement. Mais s'il voit tout et qu'il sait tout, c'est pour notre bien. Et s'il voit en nous, et s'il connaît quelque chose en nous qui ne va pas, il nous le dit pour une seule raison, que ce soit pardonné, effacé, qu'on n'en parle plus. C'est donc pour notre bien que Dieu voit tout et que Dieu sait tout. Pardonne-nous nos offenses, mais comment cela va-t-il se faire ? Eh bien, tout simplement, confessez vos péchés. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Est-ce que ce matin, vous et moi, nous avons une ardoise effacée ? Pas envers les autres, hein ? Ça, c'est notre sujet. Mais envers Dieu, notre ardoise envers Dieu, la page sur laquelle des choses s'écrivent de notre vie, est-ce qu'elle a été effacée? Si elle a été effacée, béni soit Dieu. Si quelque chose reste, c'est maintenant qu'il faut l'effacer. C'est maintenant que le Seigneur veut l'effacer. Et puis, ne nous soumets pas à la tentation. Et ce qui m'a surpris, c'est que dans l'évangile de Luc, au moment où Jésus doit prendre la plus difficile décision le concernant, il parle de tentation. Et il va y revenir plusieurs fois. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lui, il s'éloigne. Et puis il prie le Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Un ange lui apparaît, le fortifie. Après avoir prié, il se lève, il vient vers les disciples qui trouvent endormis et il leur dit, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, on va peut-être parler de la tentation telle qu'il faut en parler. La tentation, l'Écriture nous dit, et je l'ai encore vérifié ce matin avec la Bible online, on gagne du temps, on tape le mot tentation, il y a tous les versets avec le mot tentation qui sortent. La tentation, elle est humaine. 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté ou éprouvé, c'est la même racine étymologique, au-delà de vos forces et avec la tentation ou l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir. Néanmoins, elle est humaine. Ça veut dire que les épreuves de ma vie, ce n'est pas Dieu qui les place pour me faire faire des progrès. Il utilise les épreuves de ma vie pour me faire faire des progrès, oui. Mais ce n'est pas lui qui les place. La raison, elle est simple, c'est que si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas de tentation, il n'y aurait pas d'épreuve. Et Dieu ne viendrait pas les injecter. L'homme a péché, il y a la tentation, il y a l'épreuve, alors Dieu les utilise pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. L'apôtre Jacques le dira pour l'appuyer définitivement, la tentation ne vient pas de Dieu et il ne tente personne. Voilà. Alors, Paul dira à Timothée, certains sont tentés par les richesses, etc., pour obtenir les biens de la terre. Et là, c'est la tentation des choses de ce monde qui pourrait nous amener à leur donner plus d'importance et d'intérêt dans notre vie que les choses de Dieu. Et là, la tentation humaine touche la tentation spirituelle. La tentation humaine, c'est de vouloir obtenir ceci, d'avoir cela, etc. Et quelque part, d'aucuns diront, mais c'est une bonne tentation de vouloir avoir de bonnes choses. Mais quand elle prend une connotation d'ordre spirituel, c'est qu'à un moment donné, je vais tellement m'y attacher à ces choses-là que j'aurai moins d'attachement pour les choses de Dieu. Et que ma vie va dépendre de ces choses-là, à tel point que si un jour j'en suis privé, pour quelque raison que ce soit, l'apôtre Paul pourra dire « Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette, et pas moi. » Et pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas nous? Est-il plus béni de Dieu que nous? Non. Il a été capable de faire la part des choses. Donc, il est bon de s'attacher et de désirer les choses de ce monde. Et si nous les avons, béni soit Dieu. Et si nous ne les avons pas, ou si nous ne les avons plus pendant un temps, eh bien, béni soit Dieu quand même. Ma vie ne dépend pas des choses de ce monde. Et c'est peut-être quand une m'en est retirée que je réalise l'attachement que j'avais pour ces choses-là. Dans le livre de l'Exode, il est dit « Ils ont tenté l'Éternel ». Après avoir vécu les miracles en Égypte, et puis ils sont grandioses, ils passent dans le désert et Dieu les bénit. Et ils murmurent et Dieu les bénit, et ils murmurent et Dieu les bénit, et ils murmurent. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Voilà ce qu'ils ont dit à Massa et Meriba. Et le Seigneur de dire, ils m'ont tenté. De temps en temps, le Seigneur pourrait nous faire un petit reproche. Et en général, quand il le fait, forcément, il a toujours raison. Et mais il a raison pour une seule et unique raison, c'est qu'il ne nous le dit jamais de suite. Il a été avec nous, il nous a aidés. Il nous a secourus X fois, il nous a bénis, on en a même oublié le nombre. Et quand, après tout cela, nous arriverions encore à dire « Mais Seigneur, tu es avec moi ou pas ?» Là, c'est une offense. Là, c'est une tentation. Est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alors la question, elle est posée, du coup, il faut y répondre. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? L'Éternel est-il avec vous ou n'y est-il pas? Y est-il tous les jours ou n'y est-il pas? Il est avec nous, il est au milieu de nous et tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier passage où il sera question de tentation, afin que vous soyez capables de faire face à la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Donc il faut que nous réglions véritablement la question de la tentation dans notre vie, et pas la tentation du bout de gâteau à la fin du repas, à midi ou d'autres choses. Souvent on rit avec ça, mais c'est bien de rire avec ça, mais il ne faut pas oublier que le risque il est ailleurs. Le gâteau c'est calorique, avec d'autres choses c'est beaucoup plus dangereux. Au moment de prendre la décision la plus importante de son existence, et si quelqu'un en était là, alors faites ce que le Seigneur a fait. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Même le Seigneur n'a pas pris la moindre décision du choix des disciples, et surtout celle qui allait être la plus importante de sa vie, sans prendre le temps du recul et de la prière. Et c'est exactement ce que le Seigneur disait ce matin au travers d'un don spirituel. Avant de prendre quelque décision que ce soit, temps de recul et prendre le temps de la prière. Et ça faisait même partie de ses habitudes. Il alla selon sa coutume. Il y a de bonnes habitudes. Et si le Seigneur avait cette habitude-là, nous devons avoir cette habitude-là. Nous ne pouvons pas avoir d'autres habitudes que lui. Lui, il allait au temple. Lui, il prenait le temps du recul et de la prière. C'était ses habitudes. Il enseignait, c'était son habitude. Il entrait dans les synagogues le jour de sabbat, c'était son habitude. Il allait à la montagne des Oliviers et il priait, c'était son habitude. Nos mauvaises habitudes, on devrait les gommer pour avoir ces bonnes habitudes-là. Et ses disciples le suivirent. Quand on fait, de toute façon, quoi qu'on fasse, en général, il y a toujours quelqu'un qui nous voit, qui nous suit, particulièrement les enfants. Mais quand on a de bonnes habitudes, alors on leur donne aussi de bonnes indications. Ses disciples le suivirent. Et ça, c'est un enseignement. Il n'est pas celui simplement qui a dit dans le Notre Père, « Voilà quand vous devez prier, voilà comment vous devez faire. » Mais il le fait. Et les autres le suivent. Et il dit, « Afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Prie dans ta chambre. Puis fais attention aux paroles que tu dis quand tu pries, parce que Dieu fait attention aux paroles qu'il te dit lui-même. Dieu parle au travers de sa parole, Dieu parle au travers de l'Esprit. Nous faisons attention à ce qu'il dit, mais Dieu fait attention à ce qu'il dit aussi. Quand il nous reprend avec une mesure de grâce, parce qu'il pèse les mots. Donc, entre parenthèses, quand les uns et les autres apportons un don spirituel, demandons au Seigneur de nous aider à trouver les mots, les bons mots. La pensée de l'Esprit, c'est une chose, mais après, il faut que nous, on l'apporte avec nos mots humains, que Dieu nous inspire aussi à trouver les bons mots, et il le fera. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il leur dit, afin que vous... ne tombiez pas en tentation. Et là, nous sommes avec une autre tentation. C'est celle qui consisterait à dire « Je ne veux pas ta volonté dans ma vie. » C'est la plus grave de toutes. « Je ne veux pas de ta volonté dans ma vie. » Parce que pour être honnête, en fait, la question fondamentale, c'est bien celle-là. Dans le livre de la Genèse, c'est là la chute. « Je ne veux pas de ta volonté dans ma vie. » Ça, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est la réalité. Dieu avait dit une chose concernant un arbre avec son fruit. Ce n'est pas si grave que ça. Mais fondamentalement, oui, c'est grave. Ce que Dieu a dit, il le dit toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien. N'en mange pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce que Dieu a fait, c'est toujours pour notre bien. Et je ne peux pas me permettre... pour quelque sujet que ce soit, de dire « Ben non, finalement, ça a l'air bien, je vais le prendre. » Fondamentalement, c'est la chute. Et pour ne pas tomber, même le Seigneur doit prier que, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et là, on a tous notre problème majeur devant les yeux, pour lequel peut-être nous voudrions voir les choses se dérouler autrement. Seigneur, si tu veux qu'elles se déroulent autrement, fais-le. Mais si ta volonté était différente, donne-moi de l'accepter. On est vraiment avec une soumission de volonté à volonté, de ma volonté à celle de Dieu. Et c'est le problème de notre existence. Depuis la Genèse, c'est le problème de notre existence. Et c'est là qu'il apparaît dans toute son acuité, son importance, dans les moments les plus difficiles de ma vie, devant les situations les plus difficiles de ma vie. Accepter de dire que ta volonté soit faite plutôt que la mienne, parce que la mienne serait d'éviter la croix. Alors tous ceux qui sont les théologiens super niveau, là, dans la christologie, entre Jésus l'homme et Jésus le Dieu, alors ils vous font de la dichotomie au scalpel. Hein ? On va laisser de côté tout cela. Jésus parle devant une difficulté qui est pour lui terrible, à tel point que sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Et c'est pour nous, parfois nous sommes rendus dans une étape un peu semblable. Nous angoissons, osons le dire. Hein. Alors peut-être qu'on n'a jamais encore été à ce niveau de la sueur qui se transforme en grumeaux de sang, dans ce sens où en fait le stress est tellement important, c'est ce que des médecins ont fait ressortir, que tendu à ce niveau-là, le sang passe à travers les pores de la peau. On n'a jamais été tendu à ce niveau-là. Alors tous ceux qui disent « Eh bien, tu n'as pas le droit d'être angoissé, etc. » Écoutez, le Seigneur, à ce niveau-là, il l'a été plus que quiconque. Au regard du prix qu'il devait payer et de la difficulté qu'il devait affronter et qui n'allait pas s'estomper. Parce que si cette difficulté s'estompait, il n'y aurait jamais eu du salut, le salut pour nous. Et ça nous échappe. Hein. Comment Dieu peut-il sauver quelqu'un au travers d'une difficulté qu'il traverse ? Là, ça nous échappera toujours. Pour nous, nous pensons que le chemin spirituel, c'est « Seigneur, je te prie d'enlever la difficulté, honore ma foi. » Et c'est bien, hein, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que moi, je ne sais pas tout. Voilà. Et le Seigneur, lui, il sait tout. Peut-être que la difficulté qui est là, il ne faut pas qu'elle disparaisse, parce que c'est au terme de cette difficulté que le salut se réalisera. C'est la croix. C'est uniquement la croix. Alors, pour prendre la décision, le Seigneur a besoin de prendre du recul. Peut-être qu'il faut que quelqu'un prenne un peu de recul. Il s'éloigne d'eux. Non pas pour les mettre eux de côté, mais parce qu'il a besoin d'être seul un moment avec le Père. Et il y aura cet instant de solitude avec le Père pour pouvoir prendre la bonne décision. À la distance d'un jet de pierre. Ça veut dire que, finalement, il n'y a jamais trop de distance avec la réalité de ce monde et nous, mais il faut mettre un petit peu de distance. Et là, il se met à genoux. Et la position du corps, c'est important. Ça parle. On va prendre un exemple. Jésus voit des gens malades et il ne se limite pas à leur dire « Soyez bénis !» Il vient et il les touche. Il vient et il les touche. Et après, vous vous souvenez de quoi quand ça vous est arrivé ? Vous vous souvenez que vous avez été bénis, mais qu'il a posé sa main sur vous. Il a posé sa main sur vous. Et les uns et les autres, parfois, nous avons senti la bonne main du Seigneur se poser sur nous. Le geste a une importance importante. Eh bien, devant Dieu, si je me limite à prier debout, c'est une chose. Si je me limite à prier assis, c'est une chose. Mais quand je vais me mettre à genoux pour prier, c'est tout autre chose. Je suis éloigné de tout le monde, personne ne le voit. Mais moi qui ne me mettais à genoux devant personne, qui ne me suis jamais mis à genoux devant personne, éloigné du regard de tout le monde, je me mets à genoux devant mon Père, là dans ma chambre, et j'ai fermé la porte. Et là, devant mon Père, je dis tout. Je confesse tout. J'accepte qu'il ait raison et pas moi. Et j'accepte de dire, et c'est une forme de capitulation quand même, il faut l'avouer, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas et la tienne. Et à partir de là, vous ne dépendez que de la grâce de Dieu. Vous ne dépendez que de la bonté de Dieu. Vous ne dépendez que de la fidélité de Dieu. Il va traverser l'épreuve. D'une certaine manière, humainement parlant, l'épreuve est plus forte, mais spirituellement parlant, c'est lui qui est vainqueur. Humainement parlant, il est faible. Spirituellement parlant, il est plus fort que jamais. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes sont vaincues. Alors, je termine définitivement. Mes frères et sœurs, les difficultés de nos vies, les situations de nos vies, allons les affronter à genoux. Allons les affronter dans la prière. Nourrissons-nous, comme l'hippopotame et le rhinocéros, de quelques brins d'herbe, mais ces brins d'herbe-là, ils sont capables de donner une puissance pareille. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, mais cette graine-là est capable de me donner une force extraordinaire dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Alors, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié d'abord, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ne nous soumets pas à la tentation et je ne veux pas tomber dans le piège de dire « je veux que ma volonté se fasse, quelle que soit la tienne, que ta volonté se fasse et pas la mienne, et que ton nom soit béni. » Amen.